Il est 5h moins quart au cœur de la tempête à Québec. C'est Gravel dans le retour à Boulevard. Sur les routes, elles sont presque désertes, mais ça n'empêche pas les incidents. Audrey.
Laurentine-Sud, au nord de la Faune, camion en portefeuille, nous rappelle François. Jérémy qui nous disait tantôt que sur la 20 direction est, à la hauteur de Chemin des Îles, il y a une sortie de route, véhicule dans le terre-plein. Ça vient juste d'arriver, c'était il y a une dizaine de minutes. Autre chose, 88-971-1021, un texto.
Véro?
Les pannes d'électricité augmentent dans la capitale nationale. On est à 22 interruptions qui touchent plus de 11 500 adresses. Principalement, c'est dans le secteur de la Jacques-Cartier. En fait, c'est Lac-Beauport dans ce coin-là. Mais pour ce qui est de Québec hors MRC, là, le coin de Beauport, de Québec-Ouest, de Sainte-Foy, c'est tous des secteurs qui sont touchés au moment où on se parle. Puis le feeling, c'est que ça va continuer d'augmenter au courant des prochaines minutes. Fait qu'on se tient au courant. Puis si vous en avez, textez-nous les informations aussi.
Si vous êtes du genre à croire les déclarations du président américain Donald Trump, bien vous vous dites comment ça se fait que la guerre en Iran n'est pas encore finie. Ah, ça a l'air que c'est un petit peu plus tough que de faire un coup d'État au Venezuela. Quelle surprise! Quand on se lance dans une entreprise comme celle-là, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs motifs. Ça peut être une question de timing et d'opportunité. On sait qu'à chaque fois qu'il y a le mot pétrole à quelque part, ouais, ça peut être une grosse partie de l'explication. Mais pour décortiquer toutes les raisons possibles de la décision que Donald Trump et que les États-Unis ont pris d'attaquer l'Iran à ce stade-ci, on va parler avec Éric Sauvé, consultant en sécurité et défense, vétéran des Forces armées canadiennes. Salut Éric, comment ça va?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, la température est comment dans ton secteur?
C'est pas mal bien. Ma fille de 9 ans est à la maison et est super contente. J'ai dit, t'es vraiment chanceuse parce qu'il n'y a pas vraiment de verglas aujourd'hui. Il y en avait un peu un matin, mais là, c'est de la pluie qui gèle même pas au sol.
Là, vous êtes dans quel coin, vous autres?
Pardon, oui, je suis à Gatineau.
À Gatineau.
Okay. Dans l'ouest et dans le sud du Québec même. Fait qu'il fait plus chaud ici.
Oui, nous autres, là, on est dans le Grésil depuis une couple d'heures, puis on sent que la pluie verglaçante est en train de s'installer. Éric, sais-tu exact de dire que quand on se lance dans une guerre comme celle-là, puis je sais que Donald Trump est quelqu'un d'exception dans tous les sens du terme, là, mais c'est pas en se levant le matin qu'on paye sur le bouton rouge, là.
Non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai écrit un article dans la presse hier par rapport à ça, parce que moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mm-hmm, puis j'entends tout le monde qui me dit toujours « Ah, il fait ça parce qu'il veut détourner l'attention de la filière Epstein. »
Oui.
Puis là, je me dis quand même, là, on déploie pas deux porte-avions, des choses qui coûtent des centaines de millions par jour, attaquer un pays, puis un peu mettre le bordel dans tout le Moyen-Orient, juste parce qu'on veut détourner de la filière Epstein ou du fait qu'on gère mal l'économie américaine.
Par contre, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver au même moment, qui peuvent mettre une pression supplémentaire sur le président américain. Puis je pense que la première raison, c'est un peu ça, c'est l'influence de d'autres pays, sans dire qu'ils tirent les ficelles, qui peuvent mettre de la pression sur les États-Unis.
Ben, je pense que tu t'en parles, là, Benjamin Netanyahu, l'Israélien, c'est probablement lui qui a soufflé dans l'oreille de Trump que ça serait une bonne idée d'aller attaquer l'Iran. Parce qu'il a réussi à le convaincre l'été passé. Il y a eu la guerre des 12 jours où ce qu'on a fait une frappe. Les Américains ont fait une frappe sur le nucléaire iranien. Puis là, probablement que Netanyahu et peut-être Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, a aussi dit que ça serait un bon moment pour frapper l'Iran pendant qu'elle est très affaibli, tu sais, il y avait une crise économique, il y avait une répression par rapport aux manifestants, l'Iran est isolé. Je pense qu'ils ont convaincu Trump de faire un peu de refaire le coup du Venezuela, mais ça se passe pas exactement comme ils avaient tous prévu, là.
Y a aussi les intérêts personnels et économiques, là. Est-ce qu'on parle des intérêts personnels des États-Unis ou de ceux de Donald, ouais, Trump?
Selon moi, quand Trump évalue une question, c'est les intérêts personnels en premier qui passent. Uh-huh. Puis, il a fait déjà beaucoup d'affaires avec les pays du Moyen-Orient. On sait qu'il y a eu un avion à 400 millions du Qatar. On sait que les fils à Trump, Donald Jr. puis Eric, passent souvent derrière puis ramassent des contrats.
Oui.
Selon moi, en Arabie Saoudite, selon moi, le prince MBS a probablement dit que si on attaquait l'Iran, il y aurait des contrats lucratifs, puis je suis certain que ça va sortir dans les prochains jours.
Il y a une question de timing aussi. Pourquoi c'était un bon timing, là, d'attaquer l'Iran? Parce qu'ils sont affaiblis, mais de quelle façon?
Bien, l'Iran a été très affaibli par les frappes l'an passé. Comme j'ai dit, les Américains ont réussi à frapper leur site nucléaire. Le rial, la monnaie s'est dévaluée. Il y a eu des manifestations dans le bazar de Téhéran en décembre, suivies d'une répression massive. Puis là, ça n'a pas beaucoup sorti, mais le 8-9 janvier, ça a été extrêmement sanglant, là. On parle de dizaines de milliers de morts, des gardes révolutionnaires qui arrivaient en moto puis tiraient dans le tas. Puis c'est là que Trump a dit « l'aide s'en vient ». Puis quand tu dis ça, quand tu annonces ça comme chef d'État, ben il faut que tu fasses quelque chose. Puis s'il avait rien fait, Trump aurait perdu la face. Puis on sait qu'il n'aime pas beaucoup perdre la face.
Puis en même temps, c'est peut-être un peu cynique de le dire comme ça, mais ça devient l'argument que tu vas servir à toutes les gens qui vont te reprocher justement d'avoir des intérêts personnels, d'avoir été manipulé par d'autres. Ben là, tu vas dire, écoutez, vous avez vu, le peuple lui-même se révolte. Vous avez vu de quelle façon ils ont été ramassés. On y va pour libérer la population de l'Iran.
Oui, mais là, la dernière phrase que tu as mentionnée, c'est un peu le problème, justement, de la libération. Parce que s'il y avait des objectifs limités comme réduire les capacités balistiques, ça aurait été quand même pas mal. S'il avait dit « je veux réduire le nucléaire aussi », mais Trump s'est trompé entre la stratégie et les souhaits, OK? Sa stratégie, c'était de faire ce que je viens de dire, et les souhaits, c'était que le régime tombe. Puis il n'a rien mis en place pour que le régime tombe, parce que pour que le régime soit remplacé par quelque chose de cohérent, il aurait fallu que les forces spéciales, le renseignement, soient déjà sur place en train d'aider l'opposition, entraînés, armés. Puis ça, ça prend du temps. Ouais. Fait que Trump, son administration, ses aviseurs, son renseignement lui a dit « on réussira pas à faire tomber le régime ». Fait que qu'est-ce qu'il a fait? C'est que la première journée, il a dit « profitez-en, les Iraniens, c'est votre seule chance ». Dans le fond, il a mis ça un peu dans leurs mains. Puis c'est pas ça qui s'est passé du tout. Ça fait déjà 12 jours, là.
C'est-tu juste de faire un parallèle? Parce que je me souviens, au début de la guerre en Ukraine, Poutine qui nous dit « c'est une affaire de 24 heures, puis ça va se régler ». Puis quand Trump a dit « c'est réglé en Iran », j'étais comme « hey, j'ai déjà entendu ça quelque part, puis il faudrait peut-être attendre avant de lever les bras dans les airs, là. Ça peut être plus long que prévu, là.
Mais il y a un parallèle très important à faire parce que, dans le fond, les aviseurs de Poutine lui ont dit « En 3 jours, tu vas prendre Kiev, puis ça va tomber. » Là, ça fait 4 ans, là. 4 ans fois 365 jours. Puis, probablement que Trump s'est fait dire la même chose. Ses aviseurs, en fait, peut-être que Netanyahou et ses aviseurs lui ont dit « En une dizaine de jours, on refait le coup du Venezuela, on réussit à rétablir la situation, et puis on passe à autre chose. » Mais le Moyen-Orient, là, on le sait, là, l'Irak, la Libye, la Syrie, ça s'est jamais passé comme les Américains voulaient que ça se passe.
Puis, Éric, à partir du moment où la guerre s'étire, ben là, on parle d'une menace nucléaire et balistique qui plane au-dessus de la tête de bien du monde parce que l'Iran possède cet armement-là.
Ben, l'Iran ne possède pas l'arme nucléaire. Je ne veux pas non plus alarmer les gens, là. Ils développent, sont en train d'enrichir leur uranium. L'uranium est enrichi environ à 60 %
et
sont loin. Oui, non, ils sont loin d'avoir l'arme nucléaire. Cependant, leur programme balistique est extrêmement important. Puis le programme balistique, dans le fond, les missiles, c'est le vecteur pour amener le nucléaire ailleurs. Fait qu'il fallait anéantir le programme nucléaire parce qu'il est déjà vraiment amoindri. Mais il faut aussi détruire les missiles balistiques qui peuvent tirer jusqu'à 2000 km. Ça, pour donner une idée, là, ça va jusqu'à l'ouest de la Turquie. Puis la Turquie, c'est un pays de l'OTAN. Fait qu'on ne veut pas vraiment que la Turquie soit impliquée dans ce conflit-là non plus.
Éric, est-ce que le fait que le Venezuela, ça a été tellement rapide, net, fret, sec, ça a pu booster un peu l'ego puis la confiance de Donald Trump de se dire « Bon, on l'a fait une fois, on va le faire 2 fois, 3 fois, puis autant que ça nous chante. »
Moi, je suis convaincu que ça a pesé dans la balance parce que les forces militaires américaines, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait en Venezuela, puis en Iran aussi, au niveau tactique et opérationnel, c'est très impressionnant. Ils sont vraiment forts. Fait qu'ils ont probablement dit, on peut refaire le coup, on détruit la défense antiaérienne, on amène les avions, on bombarde, on tire le président, on détruit les gardiens de la Révolution. Et puis là, ben, par contre, ce qu'on sait, c'est que Trump s'est fait dire, n'imagine pas qu'il va y avoir un soulèvement automatique. Et pourtant, ben, il s'est dit, bon, on va l'essayer quand même. T'sais. Fait que, c'est ça le problème, c'est que les buts qui s'est mis sont beaucoup trop élevés par rapport aux moyens.
Si on se reparle dans 6 ou 8 mois, puis que la guerre en Iran n'est pas terminée, on fait face à quoi au juste, là?
Ben, moi, j'ai l'impression, Denis, que ça va se régler assez rapidement. Je vais te dire pourquoi, OK? Parce que Trump a l'attention d'un enfant de 5 ans, puis n'aime pas non plus la problématique qu'il y a en ce moment, que le pétrole, le coût du pétrole va monter. Le détroit d'Hormuz où 20 % du pétrole passe, ça va créer des gros problèmes économiques. Puis c'est vraiment, il peut se retirer n'importe quand. Là. On fait des blagues, là, mais il peut donner l'ordre aux forces armées de dire « c'est terminé, on déclare victoire, on dit qu'on a anéanti le programme balistique nucléaire, puis on passe à autre chose. » Mais là, le problème, c'est qu'est-ce qui va rester derrière?
Ouais.
Parce que là, l'Iran n'a pas été réglé, puis tous les pays alentours vont dire « ben moi, j'en ai un peu contre l'Iran, puis je vais peut-être m'en prendre à eux prochainement. »
Hey Eric, merci beaucoup, super intéressant, puis à la prochaine.
Merci, à la prochaine fois.
En espérant que la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être réglé, toutes ces affaires-là. C'est un petit peu stressant quand même. Hein? Éric Sauvé, qui est consultant en sécurité et défense, vétéran des Forces armées canadiennes, plus tôt cette semaine, il a signé un texte dans la presse qui parle des motifs variés et nombreux. Je pense qu'on vient de faire le tour, qui fait en sorte. Puis, tu sais, des fois, on a tendance à tourner les coins ronds. Tu sais, partir une guerre pour qu'on parle plus des dossiers Epstein, c'est gros. Ça peut faire partie de la longue liste des facteurs qui font en sorte que tu te dis « ouais, ce serait un bon timing ». Tu sais, des fois, des vendredis d'éclipse médiatique, ouais, qu'on appelle, ben oui, t'as une mauvaise nouvelle à passer, t'as passé le vendredi après-midi.
Tu fais des mises à pied, tu choisis ce moment-là, t'attends qu'il y ait un gros échange du Canadien.
Tout le monde utilise le timing politique. Tu sais, cet après-midi, jour de tempête, jour de dévoilement de la programmation du FEC, c'est un bon timing à Lévis pour adresser les problèmes
de
la ville.
Pour dire que le moratoire, finalement, ouais, ça ne sera pas levé avant novembre 2028.
Exact, exact.
Là, par contre, il y a des éléments inquiétants qui sortent du côté de l'Occident en lien avec la guerre en Iran.
Oui.
Parce que, tu sais, on a la conversation régulièrement. En fait, chaque fois que Donald Trump décide de s'en prendre à quelqu'un en quelque part, que ce soit par des propos ou par des gestes, on se dit, à un moment donné, va-tu piler sur quelqu'un qui va décider que ça va y revenir d'en face? Puis c'est le FBI qui, un peu plus tôt aujourd'hui, a sorti publiquement qu'on avait reçu des menaces à l'effet qu'on pourrait utiliser des drones du côté de l'Iran, mais sur la Californie. Puis dimanche, c'est entre autres la cérémonie des Oscars. Tu sais, quand tu décides de faire mal à l'Occident, tu vas essayer de toucher à certains éléments. On pense
les symboles,
au 11 septembre.
Les
exactement,
symboles.
Les symboles.
Parce que tu n'auras pas 8 chances de faire une attaque en Amérique du Nord. Tu vas avoir une chance, puis de la façon qui voit ça, c'est justement de dire on a une attaque qui va marcher sur 19 qui vont chier. Fait que quand on attaque des symboles. Imagine-toi à la cérémonie des Oscars
Trump
avec des acteurs.
Trump a bien beau haïr les acteurs parce que les acteurs sont contre lui, etc., etc. Mais reste que ce qu'on vise quand on vise des symboles comme ceux-là, tu sais, Hollywood, c'est le rêve américain, c'est le modèle occidental carrément. Fait qu'on va renforcer la sécurité pour cette cérémonie-là. Mais tu sais, on a l'impression que parce qu'il y a des océans de part et d'autre, que l'Amérique du Nord est en sécurité. Nous.
On est niaiseux. Collectivement, on est niaiseux, puis je suis dans le collectif, je suis bien niaiseux aussi, tu sais. On prend pour acquis que les États-Unis sont intouchables. Le World Trade Center nous a pété d'en face, puis on n'était même pas en guerre.
Ouais.
Tu sais, l'Iran s'est fait attaquer, ils sont allés tuer le boss. Mm-hmm. Quand bien même que la moitié du monde danserait dans les rues, à partir du moment où tu as la technologie puis l'armement nécessaire, les gens qui prennent la relève, c'est quoi leur priorité? C'est de faire un statement, c'est de faire mal le plus rapidement possible. Puis regarde, souhaitons pas que ça arrive, puis il faut pas que ça arrive. Mais retenez une chose,